Moi, je prends le mode du travail au personnel oriental. J'ai réduit totalement cette
étude. Moi, c'est bien de vous convaincre. On peut s'engager. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la stratégie de maîtrise, on trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue à Parole aux auditeurs sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Le 21 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la paix. À l'occasion de cette célébration, l'Organisation des Nations Unies invite le peuple du monde entier à œuvrer de concert pour construire un avenir à l'abri des conflits. Certains observateurs estiment que c'est l'occasion pour la RDC, qui traverse une période assez difficile, pour un aboutissement heureux de sa démocratie, de s'inspirer des modèles de paix en Afrique. Selon vous, quel modèle de paix en Afrique peut inspirer la République démocratique du Congo? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 080-890-6315 pour votre intervention en direct. Julie Pesabongonda est à la réalisation et au standard de cette émission. André Mongou assure la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie, la coordination et la présentation de J.R. Lungembo Luabung, en guise de la supervision de Martin Sebou Jangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons, chers auditeurs, en ligne, notre invité pour débattre de cette question. Il s'agit bien de professeur Alphonse Toumba Luaba, secrétaire exécutif honoraire de CERPGL, communauté économique de pays des Grands Lacs. Professeur, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour, hier, je suis avec vous en ligne. Permettez-moi de préciser que je suis plutôt secrétaire exécutif honoraire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et non la CPGL.
Merci beaucoup.
C'est important, bonjour.
Merci beaucoup pour ce rectificatif. Nous rappelons que selon plusieurs études et analyses politiques, l'Afrique en général éprouve d'énormes difficultés à l'établissement d'une paix durable dans certains pays en proie au conflit. La RDC, déjà bientôt deux décennies que les conflits est devenu durable, et aujourd'hui source d'interrogation sur les caractères volatiles de la paix conclue à l'issue de multiples négociations, médiations et accords de paix. Il est tout aussi vrai, toujours selon ces analyses, que ces accords de paix en RDC ont donné notamment des résultats qui sont un mélange de succès et d'échecs, tant la guerre et la paix cohabitent en prévalant dans différentes parties du pays. Est-ce que se pose la question à certains chercheurs d'un centre d'études politiques de l'Université de Goma, n'a-t-on pas cherché à résoudre un conflit imaginé en ignorant le vrai, ou ne sommes-nous pas en train d'appliquer des recettes qui ne marchent plus? Alors, dans le deuxième cas de figure, il faudrait repenser les modus operandi que nous employons dans la recherche d'une paix durable en RDC. Alors, d'aucuns estiment qu'il va falloir nous inspirer du mode de paix en Afrique. J'ai l'exemple de Liberia ou de Sierra Leone. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que c'est possible de nous inspirer des modèles en Afrique, professeur?
Hier, avec votre permission, je voudrais d'abord avoir un mot, une pensée de compassion à l'endroit des familles éprouvées, une pensée pieuse à l'endroit de nos frères et sœurs, quels qu'ils soient, qui est décédé hier dans des circonstances tragiques. Je pense que il y a toujours des leçons à tirer de ce qui s'est déjà fait chez nous et de ce qui s'est fait ailleurs. Mais le paradoxe, c'est que je crois qu'à l'heure actuelle, nous ne devrions pas être là à chercher de modèles d'édification de paix durable, de démocratie, d'état de droit. Après avoir organisé les élections en 2001 et 2006, nous serions en ce moment une source d'inspiration pour d'autres pays africains, un modèle pour la paix, pour l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Mais hélas, chaque fois qu'on atteint des résultats, nous semblons nous-mêmes les défaire. Et la responsabilité partagée pour la consolidation de la paix et de la démocratie. Ensemble, on doit pouvoir relever ces défis.
Alors, qu'est-ce qui serait à la base, professeur, des résultats qui sont un mélange de succès et d'échecs pour les cas, notamment de la RDC?
Pour le cas de la RDC, en matière de paix, je crois que nous n'avons jamais réussi à faire aboutir le processus de réforme du système sécuritaire. Il y a toujours des poches d'insécurité à travers le pays. On n'arrive pas à avoir une maîtrise totale de l'administration, de la police, de la justice et même de l'armée sur l'ensemble du territoire national. Il y a aussi le respect de nos engagements, de la parole donnée, de la parole écrite. Je crois que notre classe politique semble beaucoup plus privilégier les intérêts individuels, les intérêts catégoriels au détriment de l'intérêt général. On n'arrive pas à consolider les résultats, les acquis. C'est comme si on assiste à un éternel recommencement des choses.
Voilà, alors à ce jour, c'est vrai, vous l'avez dit, l'une des difficultés, c'est le fait qu'on n'est pas à même de pouvoir mener à bon port en fait cette réforme de la sécurité et de la justice, et qui constitue, disons, selon certains observateurs, le véritable gage pour la paix et l'harmonie sociale. Mais aujourd'hui, concrètement, en croire le propos des uns des autres, développer la thèse selon laquelle que le Congo, c'est un pays post-conflit. Est-ce qu'il y avait moyen de repenser notre méthode ou le modus operandi pour arriver à la véritable recherche d'une paix durable? Ou peut-être il y a déjà une erreur, peut-être qu'on a des recettes qui ne sont pas, comme je l'ai dit tantôt, des recettes qui ne marchent pas, des recettes qui ne sont pas durables.
Nous avons un problème de la culture de l'état de droit. De la culture de la démocratie et du respect des droits humains. La culture de l'état de droit, comme vous le savez, veut que tous les citoyens, dirigeants et dirigés, puissent se soumettre à la loi et à l'état de droit, à la constitution, à la loi, au règlement, aux règles du pays. Mais il se fait que nous avons des interprétations sélectives et à géométrie variable selon que les règles consolident nos positions ou peuvent être instrumentalisées dans le sens de nos intérêts. Et je pense qu'après avoir organisé les élections en 2001, en 2006, on devrait être en ce moment à la phase de maturation de la démocratie, de l'état de droit dans notre pays. On devrait servir de modèle et d'exemple.
Voilà. Hélas. Voilà, parce que vous parlez déjà des élections qui ont été organisées en 2010 et en 2011. Nous devions être modèle, mais on sait qu'en 2011, là, il y a eu cette évaluation qui a été faite par certains analystes sur la présence de l'émission de maintien de la paix en Afrique. 19 ans après, on a comparé des pays qui ont fait pratiquement la même expérience comme nous. Nous pouvons citer le Libéria et le Sierra Leone. Aujourd'hui, ces deux pays peuvent constituer quand même des modèles où il y a eu la présence de mission de maintien de la paix et qui ont donné des résultats quand même escomptés aujourd'hui avec la paix.
Oui, ces deux pays ont été effectivement caractérisés par des très longues guerres civiles meurtrières. La communauté internationale a joué son rôle, les Nations Unies. Mais aussi, il faut souligner le rôle de la CEDEAO, donc de l'Afrique de l'Ouest. Faut pas se cacher les choses. En Afrique de l'Ouest, ce qu'il y a d'intéressant et qui aide aussi les pays de cette région à aller de l'avant, il y a un grand nombre de démocraties assises, d'états de droit consolidés, ce qui fait que lorsqu'il y a des missions de très haut niveau, des chefs d'État, ils viennent pour aider les autres en difficulté, comme au Libéria, comme en Sierra Leone, pour qu'ils aillent de l'avant et les rejoignent. dans la catégorie d'État de démocratie. Et ils ont un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance qui est mise en œuvre, qui est respectée par la plupart de ces États. Et il y a un plus grand nombre de démocraties en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Et c'est ce qui fait que les organisations régionales, notamment celles dont j'ai été secrétaire exécutif, la CIRGL, la CPGL, ont des difficultés à jouer un rôle dans la consolidation de la démocratie et de l'état de droit et en cas de conflit démocratique. Vous avez qu'à regarder aussi ce qui se passe en ce moment au Gabon et ce qui se passe au Burundi. Malheureusement, il y a beaucoup de facteurs que j'ai vécu au Burundi qui semblent se reproduire également ici. Je pense qu'il faut permettre à l'espace politique de fonctionner de façon ouverte et transparente. Il faut ne pas instrumentaliser la justice, ne pas instrumentaliser les forces de l'ordre et de sécurité. Et tout cela est contenu dans le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Mais je pense que dans un pays, il y a les responsabilités se situent à des niveaux assez différents. L'Union africaine, comme la CIRGL, disent qu'à la base des conflits en Afrique, il y a notamment l'accès au pouvoir par la violence ou le maintien au pouvoir par la violence. Je crois que si nous respectons les règles de jeu au niveau régional et au niveau de nos pays de l'Afrique centrale, il y a moyen d'éviter certains conflits.
Merci beaucoup, professeur. Nous vous gardons encore en ligne et nous rappelons à ceux qui veulent participer à cette émission, ils peuvent le faire au 081-890-63-15. Et vous avez également, chers auditeurs, la possibilité de poster vos commentaires sur d'autres pages Facebook.
Votre connexion Internet est trop lente? RadioCapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mails. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mails, c'est gratuit. RadioCapi.net à votre service.
Voilà, nous rappelons qu'en ce même moment, il y a cet échange citoyen qui se tient également sur notre page Facebook. Vous avez donc la possibilité d'échanger de manière citoyenne avec d'autres personnes qui en fait s'intéressent au sujet ici au pays et à l'étranger. Kevin, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs et bonjour aussi à l'invité.
Alors vous venez de suivre notre invité, le professeur Alphonse Toumba Luaba, secrétaire exécutif des CIRGL, qui donnait tout à l'heure son point de vue par rapport à ce modèle de paix en Afrique qui peut inspirer la RDC. Du moins, il a évoqué que partant des élections qui ont été organisées à RDC en 2006 et en 2011, ils devront plutôt servir de modèle aux autres. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai, nous faisons du sous-place. Quel est votre avis, Kevin?
Ok. Je crois que j'ai bien entendu, j'ai bien suivi l'invité, je l'ai suivi avec attention. Mais ce que je retenais, c'est que dans ses propos, on peut dire quelque chose de très important. C'est-à-dire que la démocratie, c'est une lutte de longue haleine. C'est vrai que les pays d'Afrique peuvent être constitués comme des modèles aujourd'hui pour l'Afrique centrale. Mais également, il faut savoir que la démocratie, c'est une lutte. La paix et la démocratie, c'est une lutte de longue haleine qu'il faut gagner. C'est une lutte qu'il faut gagner. Ça ne se concrétise pas du jour au lendemain. Vous savez, ça doit marcher ensemble. C'est-à-dire la démocratie et la paix, et ça coûte très cher. C'est-à-dire la paix et la démocratie, ça coûte très cher. Ça a été toujours le fruit d'une longue haleine, comme l'invité de le dire. C'est-à-dire, depuis s'installer, il faut un peu plus de temps et un minimum de confiance entre les parties prenantes. C'est-à-dire que tout le monde doit savoir qu'on est en train de concourir à des objectifs communs. Lorsqu'il y a une sorte de méfiance, alors nous allons nous livrer à des résultats tels qu'on a vécu à Kinshasa. C'est-à-dire que, et le gouvernement, et l'opposition, nous sommes dans
dans une sorte de méfiance et qu'on ne sait pas qu'on est en train de concourir à des objectifs communs. J'ai dit aussi que la démocratie a besoin beaucoup plus de moyens, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de moyens pour les mettre en œuvre. Lorsque on prend l'exemple de la RDC, on a un budget de 9 milliards à peine 6 milliards. Alors c'est difficile de l'instrumenter. La démocratie suppose la liberté d'expression. À travers la liberté d'expression, il y a la population de tous les points du pays qui sont en train de donner leurs revendications. Il faut apporter des solutions et cela demande des moyens. Il y a le fondamental de la démocratie qui est l'organisation des élections. Mais comment doit-on organiser les élections sans qu'il y ait des moyens? C'est le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est le cas qu'on a aujourd'hui en RDC. Faute de moyens, on a des tensions. Faute de moyens, les gens sont en train de mourir parce qu'on n'a pas pu organiser les élections dans les délais. Et il y a encore un problème, c'est ce que j'appelle déficit de démocratie. C'est-à-dire que on est en RDC déjà à cette époque, en Afrique centrale tout entière, on est en train d'organiser des élections à un tour. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème, donc ça demande plus de moyens. Donc voilà ce que je pouvais dire, à moins qu'il y ait d'autres questions.
Merci beaucoup, Kevin, d'avoir appelé de Mandaka. La paix et la démocratie, c'est une lutte de longue haleine, selon vous. Alain Bonouza, vous êtes à Issiro, bonjour.
Oui, bonjour Radio Gabi, bonjour à tout le monde et surtout bonjour à l'invité.
Oui, quel est votre avis, Alain?
Oui, moi, personnellement, j'estime que c'est comme l'a dit d'ailleurs le deuxième intervenant. C'est une lutte que nous devons tous mener, mais malheureusement, il y a un problème qui se situe plus au niveau de notre conception de l'État. Comme vous le savez, l'État, c'est la création, l'invention la plus géniale que l'homme a pu donner à la société. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complexe, mais qui nécessite à ce qu'il y ait une analyse profonde sur son fonctionnement. Parce que lorsqu'il y a des problèmes déjà au niveau de la conception de l'État, eh bien, ça pose des problèmes. Aujourd'hui, nous avons des crises qui sont devenues carrément chroniques, tout simplement parce qu'il y a un problème de dysfonctionnement. Moi, je me dis, si nous prenons le système politique tel que nous le définissons, il y a trois éléments, trois composantes essentielles. Il y a premièrement le régime politique, il y a la structure économique et la structure sociale. Lorsque le régime politique entre en antagonisme déjà avec la structure économique, eh bien, ça crée des problèmes. Aujourd'hui, nous avons opté pour un système décentralisé. Nous voulons que le pouvoir soit démembré. Et en même temps, nous avons donné pouvoir à un président de la République avec un mandat de 5 ans. Alors que les élections demandent beaucoup de moyens, dès lors que l'économie ne fonctionne pas, ça pose un problème, comme l'a dit celui qui m'a précédé. Et deuxièmement aussi, c'est au niveau de la société, la structure sociale. Qu'est-ce que nous constatons? Nous avons opté pour la démocratie, mais la culture démocratique, nous ne l'avons pas encore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de dichotomie, une juxtaposition de système politique, et fait qu'aujourd'hui, il nous est difficile d'avoir la paix. Et deuxièmement, je voudrais ajouter un autre élément. Notre paix n'est pas mise en mal que par la politique. Il y a aussi d'autres problèmes sociaux qui mettent aussi en mal notre État. Vous prenez, il y a certaines rébellions qui se créent tout simplement parce qu'il y a un souci économique. Les gens qui veulent résoudre leurs problèmes en prenant des armes. Nous pouvons citer le cas de Matenga. Il y a d'autres aussi mouvements armés qui créent la désolation dans notre pays. Mais leur objectif n'est pas politique, leur objectif est plus économique.
Oui, allez bonne joie. Juste une préoccupation, Alain. Aujourd'hui, je crois qu'il vous arrive aussi de suivre les propos des uns des autres. Il y a quelques années, on retenait cette leçon que faisaient en fait certains observateurs et aussi certains acteurs politiques qui disaient tous unanimement que le Congo était un pays post-conflit. Et le cas de post-conflit suppose un accord de paix qui a précédé cet état. Alors aujourd'hui, pouvons-nous encore dire que cet accord a échoué lamentablement et que la RDC continue à demeurer un état où il y a un problème de conflit intérieur?
Effectivement, moi je l'ai toujours dit, l'accord qui a été signé à San City, c'était un accord entre les belligérants. Bien qu'il y avait la présence de la société civile et de l'opposition non armée, et bien si vous lisez la Constitution, commençant par son exposé des motifs jusqu'à l'article 229, vous allez vous rendre compte qu'effectivement c'est un accord. Et pourtant, lorsqu'on prend le certain doctrinaire, tel que Georges Burdeau, qui a écrit sur le droit constitutionnel, que je lis chaque jour, je vous dis sincèrement, ce qui est important, on doit dégager une nouvelle philosophie constitutionnelle. On ne doit pas créer, on ne doit pas fonder l'État sur une constitution qui voudrait afin que la population puisse avoir peur de la guerre. Et pourtant, on sait que nous devons avoir une vision du développement parce que ce qui pousse les gens à prendre des armes, c'est l'inégalité sociale, ce n'est pas seulement des conflits politiques. On doit intégrer ces dimensions-là. On doit faire en sorte que la constitution puisse avoir un caractère de plus en plus contraignant sur certains principes que nous avons pris. Voilà pourquoi moi je soutiens l'idée d'un groupe que vous avez reçu. On doit renforcer la constitution, donner une autre valeur qui doit permettre à ce que tout ce que nous allons faire puisse correspondre avec ce que nous avons comme vision. Essayez un peu de vous imaginer aujourd'hui que nous avons un président de la République qui est réduit à un rôle purement protocolaire, mais un premier ministre qui n'est pas élu, qui est coupé, mais qui a plein pouvoir. À supposer qu'il y ait cohabitation, que le président ne soit pas membre de la même famille que le premier ministre, et que celui-ci n'organise pas les élections faute de moyens. Dès lors que le président de la République n'est pas en mesure, n'a pas la compétence constitutionnelle de les déchoir de son poste de premier ministre. La conséquence, c'est quoi? Nous risquons de ne pas avoir des élections. Alors, il y a aussi possibilité de voir comment nous pouvons créer une tête spécialement pour les élections. Donc, ce sont des réflexions que nous devons mener pour que nous n'arrivions pas à tomber dans de telles situations. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a des morts, tout simplement parce qu'on n'a pas pu organiser les élections. On n'a pas pu convoquer les élections. Alors, le constituant pouvait anticiper. Parce que je ne crois pas au Congo, un président de la République, faciliter son départ. Donc, quelque part, on devait plutôt anticiper, voir comment rendre de plus en plus autonome la CENI en quoi que l'on. En créant une taxe, par exemple, que le Congolais doit payer, et cet argent doit entrer dans le compte de la CENI pour que la CENI ne soit pas dépendante du gouvernement. Mais malheureusement, qu'est-ce que moi je constate que lorsqu'on veut parler de la révision constitutionnelle ou du changement de la constitution, tout le monde considère que c'est un pacte. C'est un contrat qui a été signé et tout le monde doit le respecter. Mais aussi, nous voyons qu'il y a certaines dispositions qui ne peuvent pas se mettre en application, tout simplement parce qu'il y a des humeurs qui facilitent ça à la tâche.
Voilà, merci.
On doit arriver à refonder l'État,
une
nouvelle base, et que tout le monde puisse arriver à apporter sa pierre.
Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. Nous retenons simplement qu'il va falloir dégager une nouvelle vision constitutionnelle. Est-ce que Omar partage cet avis? Voilà, et qu'est-ce qu'il entend par vision constitutionnelle, une nouvelle philosophie constitutionnelle? Omar, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, Gian Longembo, et bonjour à tous les auditeurs. Quand pour l'émission parle de la peine, je reviens sur les messages pour les arrêtements des balles, mais c'est une émission de critique. Je partage entièrement l'idée émise par Alain Bolivar, qui veut que la constitution puisse s'adapter aux réalités sociales. Mais je crois que j'ai, avant de dire les modèles sur lesquels la RDC, je pense qu'il faudra de façon scrupuleuse analyser les causes qui font que nous manquons toujours la paix. Premièrement, comme l'a dit Alain, c'est le respect des règles du jeu. Ça vit parmi les causes fondamentales qui fait que la paix ne puisse pas exister. Et lorsqu'on est dans un milieu où les règles sont mises en place, c'est pas les respecter, et ça crée la frustration. Il y a autre chose aussi, il y a aussi des causes externes. Vous savez, la présence d'intérêts de certains pays occidentaux peut aussi être à la base des conflits internes, car souvenez-vous du principe de vivre pour mieux régner. Le conflit interne profite parfois pour firmer les multinationales. Il y a aussi un autre problème hier, le non-respect des accords que nous avons nous-mêmes pris. Et il ne faut pas oublier l'aspect d'injustice sociale. Je pense que l'enjeu peut passer, pas seulement par des simples discours, par des simples résolutions au dialogue, mais par des problèmes fondamentaux qui la conditionnent. Il faut qu'on arrive à respecter les droits de l'homme. Les droits de l'homme ne se limitent pas au droit à la vie, ou encore au droit à la participation électorale, mais les droits fondamentaux comme le droit à la santé, les droits à l'accès aux soins de santé. Si on n'arrive pas dans une société, rendre équitable le revenu de la société, ça crée la frustration et on ne sait pas réveiller. Alors, par rapport à la question principale de l'émission, je pense que nous pouvons nous inspirer du modèle sud-africain.
Oui, mais alors, Omar, j'ai pratiquement une inquiétude, hein, parce que quand on regarde le modèle aujourd'hui, par exemple, du Libéria, on se rend compte que il y a eu, comme le Congo aussi en bénéficie, la mission des médecins de la paix, dont l'opération a commencé, par exemple, pour le cas du Libéria, en septembre 93, et 4 ans plus tard, il y a eu des élections, hein, qui ont été organisées pratiquement dans ce pays, qui avait suivi après la signature de l'accord de paix par les différentes factions libériennes, qui a même occasionné la démission de Charles Taylor. Aujourd'hui, on se rend compte que depuis 97, pratiquement 9 ou 10 ans, ce pays vit une paix durable. Bon, pas une paix, je passe bien le mot, c'est réserve de spécialistes, il y a quand même une paix qui était permanente 10 ans après. Mais alors, comparé avec nous, avec le maintien de la paix qui est arrivé en 99, aujourd'hui, 16 ans plus tard, finalement, on a, 17 ans plus tard, on a l'impression qu'on est en train de faire du sous-place. Omar?
Allô?
Oui, allô, Omar? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Omar. Alors, on revient. Omar, vous êtes avec nous? Voilà, je crois qu'on va. Il y a des petits soucis avec la ligne d'Omar. On revient à vous, professeur Alphonse Toumba-Louaba. Vous venez de suivre la première série des auditeurs avec Kevin Demandaka, Alain Bolodjoa de Siro et puis Omar de Kinshasa. Aujourd'hui, Alain pense que c'est vrai, comme vous, le problème de la gouvernance et l'état des droits, c'est constitue quand même le gage de la paix et l'harmonie sociale. Mais Alain propose pour que finalement on puisse arriver réellement à une paix durable de dégager une nouvelle philosophie constitutionnelle, en tout cas pour le cas de la RDC. Et Kevin a fait aussi des propositions, Omar l'a soutenu. Et quel est votre avis, professeur?
Bon, je partage un certain nombre de points de vue. Je crois que après un certain temps de fonctionnement, il est toujours bon de procéder à une évaluation de l'état de droit, de démocratie et de la bonne gouvernance. Mais en ce qui concerne la nouvelle vision constitutionnelle qu'Alain semble prôner, peut-être Omar qui va peut-être plus ou moins dans le même sens, je pense qu'il n'est pas bon de procéder à la modification ou à certaines interprétations des règles du jeu la veille même des élections. Je crois qu'il est beaucoup plus objectif et respectueux de l'état de droit d'attendre que les nouvelles autorités nationales soient élues. Il y a en place un nouveau président, une nouvelle Assemblée nationale, un nouveau Sénat, qui, eux, auront alors la charge de procéder à cette évaluation. Sinon, il y a des risques de voir les interprétations et les révisions faites en fonction des intérêts de ceux qui les réalisent. Une autre interrogation, c'est-à-dire, il y a quand même des principes constitutionnels, des démocraties, de l'état de droit qui sont pérennes. Je me suis toujours demandé pourquoi ces principes réussissent ailleurs. Je ne voudrais pas citer un certain nombre d'États à l'Afrique de l'Ouest, on va me dire, il revient toujours à l'Afrique de l'Ouest. Mais regardons le Bénin, regardons le Sénégal, le Libéria que vous avez cité, le Ghana, ainsi de suite. Ce sont des pays africains. On peut aller vers la Tanzanie, on peut aller vers le Botswana, ainsi de suite. Donc ce que d'autres Africains ont pu réaliser, nous pouvons aussi le réaliser. Mais quand vous citez l'exemple du Libéria, je pense que le Libéria offre actuellement l'exemple d'un état de droit, d'un état de justice, avec la lutte engagée contre la corruption par Madame Ellen Johnson Sirleaf. Mais je vous assure que le jour où elle va essayer, et je pense qu'elle ne le fera pas, la connaissant. Mais le jour où elle va essayer de se dire j'y suis ici, hein, et qu'elle voudra changer la constitution ou l'interpréter dans le sens de prolonger son mandat, le Libéria va replonger dans des conflits. La RDC est un État post-conflit, on peut le dire, parce que pour l'essentiel, il y a des acquis. Il faut bien reconnaître qu'il y a des acquis. Parce que le pays a fonctionné pendant longtemps de façon hémiplégique entre l'Est et l'Ouest. Mais il reste une conflictualité endémique sur le pourtour, surtout à l'Est. Mm-hmm. On peut réfléchir là-dessus, cette succession de groupes armés et ainsi de suite. Auquel il faudra bien mettre fin si nous arrivons à consolider la sécurité. Et je voudrais aussi souligner le fait que il y a parfois de frustrations qui naissent dans la population. Il ne faudrait pas donner l'impression que l'État c'est pour seulement certains et pas pour d'autres et pas pour tout le monde. D'où la notion que je voudrais introduire d'État équitable. Je crois aller à parler des injustices sociales, ainsi de suite. L'État équitable, pour moi, c'est l'État où tout le monde se retrouve. Et de façon anecdotique, vous savez comment on dit conjuguer le verbe manger, un État où on dit seulement je mange, ou tu manges, où il mange, ça ne va pas. Nous mangeons, et je n'ai pas ce mot, nous mangeons, c'est-à-dire un État équitable. Et il a souligné les droits humains. Parmi les droits humains, il y a le droit à l'emploi. La jeunesse que nous avons vue hier, hein, dont je plains certains comportements, mais la jeunesse que nous avons vue hier est faite aussi d'une jeunesse frustrée, d'une jeunesse qui a l'impression que les horizons sont bouchés. Il y a des chômeurs qui ont terminé l'université depuis un an, deux ans, trois ans, quatre ans ou cinq ans, qui sont à la recherche d'un emploi. Vous savez que les choses ont commencé comment en Tunisie, c'est à partir de ces problèmes de jeunes chômeurs, de jeunes qui n'ont rien, qui n'ont pas de quoi manger, et ainsi de suite. Moi, je suis convaincu que dans ces pays, il y a des ressources. Et que dans ces pays, nous pouvons avoir un budget de plusieurs dizaines de milliards de dollars, qui a une masse monétaire qui circule et qui échappe au trésor public. Il y a un problème de bonne gouvernance parce que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Voilà. Il y a des choses qui se posent dans les pays, mais nous ne savons même pas quand le gouvernement s'est réuni pour évaluer l'état des pays, pour chercher des solutions. Combien de fois le gouvernement s'est réuni sur la préparation des élections? Moi, j'ai été secrétaire général du gouvernement pendant la crise 4. Chaque semaine, on avait une évaluation interinstitutionnelle des préparatifs des élections. Et c'est ainsi qu'on est arrivé aux élections de 2006. Mais maintenant, on est surpris. Est-ce que vous pouvez me citer l'exemple d'un autre État africain qui n'a pas su organiser les élections et qui les a repoussées comme ça et qui les a reportées, même dans les pays post-conflit, même dans des pays où il y a eu la guerre, ainsi de suite? Donc, c'est là que se pose le problème de la confiance mutuelle, des suspicions. On a toujours l'impression que l'autre veut tirer la couverture de son côté. On va au dialogue, on n'y va pas parce qu'on croit qu'il y a un plan, qu'il y a un plan B, qu'il y a des pièges. Et c'est là où je pense qu'avec Omar, le modèle sud-africain peut nous inspirer. Il nous faut des hommes de paix dans ce pays, des hommes de paix. Au niveau des gouvernants, comme au niveau de l'opposition. Des hommes qui parlent le langage de paix, qui ont des attitudes de paix. Et pas de part et d'autre, je note qu'il y a des responsables, aussi bien au gouvernement, aussi bien que dans l'opposition, qui tiennent des langages extrémistes. Ils veulent mettre le feu au pays. Qui ont un langage de défi. Tu me donnes un coup, je te renvoie un coup. Comme ce qui s'est passé hier avec la destruction mutuelle des sièges de partis politiques. Il nous faut des hommes de paix. Et je suis convaincu que le président de la République, son Excellence Joseph Kabila, je suis convaincu que l'honorable Étienne Tshisekedi devrait pouvoir jouer un rôle dans ce sens-là, comme des clercs en Afrique du Sud l'a joué, comme Mandela l'a joué. En ces circonstances difficiles, ils doivent pouvoir parler, ils ne doivent pas rester silencieux, parce que la nation est menacée, bien le seul. Les autorités morales, religieuses, je ne voudrais pas parler de tous ces responsables de partis politiques qui sont autorités morales, qui se disent autorités morales, mais lorsqu'ils parlent, ils ne parlent pas un langage de paix. Les autorités morales religieuses, et notamment son éminence, le cardinal Monseigneur, je crois qu'il doit pouvoir parler aussi. En ces heures tragiques, une nation peut être sauvée par une poignée d'hommes. Et nous devons pouvoir entendre le président. Le président peut apaiser les esprits. Il suffit que le président dise, voilà, je suis là, pour assurer, selon mon serment constitutionnel, le respect de la Constitution. Je suis là pour assurer une alternance paisible. Je suis là pour vous assurer que, même s'il y a tel problème, nous allons pouvoir le surmonter de telle façon. Donc il faut que tout se passe dans la transparence et dans le respect de l'état de droit. Et il nous faut des hommes de paix.
Voilà, professeur Toumba Loba, nous vous gardons encore en ligne parce que nous avons des auditeurs qui nous ont rejoints. Mais on retient que la construction de la paix en période de post-conflit, selon vos dires, comprend finalement aussi, qui se passe par la réforme sérieuse du secteur de sécurité. Et ça appelle même, repose sur la confiance mutuelle, hein, pour qu'on évite un peu des suspicions, des gens, chacun tire les bras de son côté. Voilà, on a Maître Alain qui nous a rejoint. Il est à Bouya. Maître Alain, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, je suis là, monsieur le journaliste, bonjour.
Oui, après avoir suivi les uns les autres, et ainsi que notre invité, quel est votre avis par rapport à ces débats? Vous êtes-vous à la RDC de s'inspirer d'autres modèles de paix en Afrique? Est-ce qu'il y en a? Oui. Comme Omar qui vient de proposer l'Afrique du Sud.
La RDC, le modèle de paix en Afrique. On a du tout. Je vous dis la banque comme le continuer.
Voilà, on a des petits maîtres à l'air. Maître à l'air, vous êtes en direct.
Je suis des pages avec vous par rapport à la réunion. Moi, à mon humble avis, les fêtes du journée est vraiment bénie. Pourquoi? Parce que on peut célébrer dans le monde entier, c'est seulement le moins Congo. Pourquoi? Parce que la paix commence par la stabilité sociale et la sécurité. Si on voit les plans sociaux, monsieur le premier journaliste, en termes de PIB, nous ne sommes pas vraiment dans la paix. Pourquoi? Parce que nous sommes en dessous même de la moyenne. Nous mangeons moins de 1 dollar par jour. Imaginez-vous un pays comme le Tchad, la Somalie, qui a un PIB de 7,8 dollars le jour. Vous voyez, alors que le Congo est un pays potentiellement riche, nous avons toutes les richesses possibles, mais nous sommes vraiment mal sécurisés, non voilà. En avec la famille, avec le social. Le chômage réduit pour nous amène le système des ONG, on nous amène le système des sous-traitants.
Voilà, merci beaucoup, Maître Alain. Merci beaucoup.
Laisse-moi terminer.
Rapidement, vous avez une minute, il y a beaucoup de gens, nous n'avons que 15 minutes qui nous restent, Alain. Rapidement, dites l'essentiel et soyez précis, Alain, s'il vous plaît.
Oui, en termes de sécurité, c'est zéro. Pourquoi? Parce que les massacres d'hier, nous avons suivi le ministre, le vice-premier ministre, qui félicite même ses compatriotes, ses soldats, en disant non, monsieur le journaliste, je vous félicite. Pourquoi? Parce que vous avez fait des loyaux services pour tuer la population. Vous voyez, nous, en termes de sécurité, la paix n'existe pas au Congo. Parce que les autorités qui devraient nous garantir la paix, ce sont ceux qui sont
voilà. Les privés. Alors, je comprends votre souci. Je crois que des part et d'autre des responsables de ce pays ont parlé, ils ont condamné des actes de vandalisme qui sont orchestrés hier, disons à travers la ville de Kinshasa et ailleurs. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup qui dénoncent cela et aussi qui regrettent ces actes qui ont été posés parce qu'il y a eu des cas de morts. Bon, voilà, donc je crois que c'est vraiment pas le sujet parce que la ressource de la paix, nous avons dit que nous célébrons le 21 septembre de chaque année la journée mondiale de la paix et à cette occasion, c'est l'occasion, donc l'Organisation des Nations Unies invite le peuple du monde, entier à œuvrer de concert pour construire un avenir à l'abri des conflits. Alors certains observateurs estiment que c'est l'occasion pour la RDC, qui traverse une période assez difficile, pour un aboutissement heureux de sa démocratie, de s'inspirer des modèles de paix en Afrique. Les uns ont dit qu'il faut prendre les modèles sud-africains, d'autres sont allés plus loin pour demander qu'on puisse copier directement le Libéria. Alors, vous êtes député national, Tchongo, vous êtes à Kinshasa. Monsieur Tchongo, vous êtes avec nous depuis que vous êtes député national.
Merci, monsieur le journaliste, je suis avec vous. Je suis très content de l'émission, mais le temps que vous allez me donner va être un petit temps. Ce qui ne suffira pas, c'est pour que je...
Voilà, d'habitude, nous
sommes... Exactement, quand vous êtes au fond, la presse, c'est pas seulement le manque de gouvernement d'armes. La presse, c'est un problème de justice, d'équité, de valeur, d'éthique. C'est pas cela provenant de la paix. Le problème que nous avons dans ce pays est un problème quelquefois endogène et exogène. Endogène, c'est-à-dire le problème vient de nous, le peuple. Il y a manque d'hommes en Afrique générale, au Congo en particulier. Il y a le manque d'hommes. Le manque d'hommes vient du problème de notre indépendance qu'on a eu sous la précipitation, monsieur le journaliste. Il y a un problème profondément substantiel. Le problème de connaître le contenu de la démocratie, connaître le contenu de l'indépendance. Non, nous avons besoin de la communauté internationale, comme vous là, votre radio. Mais le problème là, endogène, c'est nous-mêmes, manque d'hommes, manque de réflexion, manque de conscience, parce que nous avons eu une indépendance précipitée et nous sommes en train d'emballer. Et nous sommes devant l'intérêt, devant le capitalisme, le problème capitalisme et ainsi de suite qui frappe beaucoup. Là, c'est endogène. Exogène, c'est parce qu'il y a manque de franchise par rapport à la diplomatie. La communauté internationale, comme partenaire, au lieu de nous rendre service humain, franchement, les journalistes, la communauté internationale joue le jeu de manque de franchise, manque de sérénité dans ce qu'il doit. Nous avons des difficultés. Je vais vous ramener en philosophie de M. Aristote. Aristote parle de 10 arts suprêmes d'être en situation. 10 arts suprêmes, il dit que toute chose siège, homme, vache, est une matière. Cette matière qui se différencie par la quantité, la qualité, la relation, l'action, la passion, l'espace et le temps, tout forme une situation, la situation qui forme une possession. Donc, être à avoir. Il continue à dire que, et docteur, c'est celui qui consulte le malade, trouve la maladie et le soigne. Si vous ne faites pas, vous ne remplissez pas cette fonction, vous ne faites pas ce rôle, vous n'êtes pas maître. Un président de la République, ministre, c'est lorsqu'il remplit la fonction du président de la République, tout ministre, s'il ne fait pas par ses diplômes, par ses supports, il n'est pas président de la République, il n'est pas premier ministre. Là, c'est le problème de substance, le problème de reconnaissance du rôle. Nous avons une difficulté de ne pas considérer notre rôle, donc nous avons une identité du rôle qu'on devait remplir. C'est ça le grand problème.
Voilà.
Le
problème merci beaucoup. On aura besoin de vous. Vous avez utilisé quand même les deux minutes. Nous avons été quand même gentils parce que généralement on accorde une minute aux intervenants. Voilà, vous avez utilisé vos deux minutes. Mais nous retenons que pour vous, les problèmes aujourd'hui de déficit de paix en RDC, c'est lié au manque de leadership qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est par rapport à notre histoire qui serait liée naturellement à l'indépendance acquise dans la précipitation. Et deuxièmement, cette difficulté de collaboration, d'accompagnement de la communauté internationale. Nous avons vu les cas des Libéria ou encore d'autres pays qui sont sous la coupole de la CEDEAO, où les choses marchent quand même. Il y a quand même des pays. Notre invité a parlé du Sénégal, le Libéria, le Ghana et tant d'autres qui peuvent considérer des modèles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ces deux problèmes-là que nous retenons par rapport à votre intervention. Merci beaucoup, honorable Tchongo. Hein. Donc, je crois qu'on a d'autres auditeurs qui nous ont rejoints, pratiquement, à qui on va accorder la parole. Je crois que la réalisation va le faire. Voilà, on va prendre Madame Josephine qui est à Boston. Madame Josephine, vous êtes à Boston, bonjour. Madame Josephine, vous êtes avec nous?
Bien, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je vais dire ceci, la paix, hein, la paix, Pierrot, vous savez, hein, il y a deux mois, ici aux États-Unis, on a fait les primaires, hein, pour les votes. J'ai dit, ça s'est passé dans des endroits il y a des endroits où ça s'est passé dans des maisons des gens. Nous, dans notre quartier, nous sommes allés à une église. On n'a pas demandé, on a fait ça sur des papiers. Hein, des papiers, on donne parce qu'il y a la paix, il y a la confiance. On a donné des résultats de primaire. Bon, par là, je veux dire que le vote, hein, ça ne demande même pas de l'argent dans la paix, dans un pays là où il y a la paix, dans un pays là où la population s'aime. Le vote ne demande même pas de l'argent, je t'ai dit. Bon, je vais raconter une histoire. Dans un village, il y avait un garçon, très grand, très fort, mais il avait un problème. Alors, comme on le sait, le garçon mouille le lit. Alors, les garçons là mouillaient les lits. Hein? Alors, on les tapait chaque jour. Chaque jour, le papa les tapait. Pourquoi tu as mouillé le lit? On l'a amené chez le féticheur. Le féticheur a tout fait. On n'a pas trouvé de solution. Mais il y avait un vieillard là, à côté. Il a dit, non, donnez-moi ce garçon ici. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé tout simplement au garçon de manger seulement à midi. Parce qu'il a remarqué que ce garçon-là mangeait beaucoup, même la nuit, c'est pour ça qu'il mouillait le lit. Deux semaines après, on l'a ramené à la maison, il a arrêté de faire pipi. Alors, par là, je vais dire ceci. Si vous voulez trouver, si vous voulez trouver des solutions à quelque chose, il faut savoir détecter le problème. Si vous ne détectez pas le problème, vous allez tourner en rond. Ce garçon-là a été tabassé, même jusqu'à mort. On l'a amené même chez les féticheurs. Parce que chez nous, on sait que les féticheurs...
Oui, madame Joséphine.
Le Congo a besoin de trouver d'abord le problème, c'est quoi.
Oui, mais madame Joséphine...
Si on ne trouve pas le problème, il n'y aura pas la paix.
Mais madame Joséphine...
Il n'y aura pas la paix au Congo.
Oui, madame Joséphine, il y a eu beaucoup, il y a eu tentative de chercher la paix à RDC. Nous connaissons bien l'histoire. Il y a eu des accords durant la conférence de Goma, il y a eu Amani, il y a eu Sun City, pour parler un peu plus avant avec le palais de marbre 1, palais de marbre 2, il y a eu Utenika.
Voilà. Donne-moi 30 secondes. Vous savez tout ça?
Oui.
Ça, c'est ce que le parent du garçon l'a fait. Il le tapait, il l'a amené chez les féticheurs. Le problème, c'était ailleurs. Le garçon mangeait beaucoup. Alors, Amani, non, ça, ce n'est pas le problème.
Le problème, c'est lequel?
Le problème,
c'est lequel?
Par exemple, le problème, Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Il y a le Lasdel qui est venu les chasser. Pour barrer la dictature. Est-ce que maintenant là, la dictature est barrée?
Non, merci.
La dictature n'est pas finie.
Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame Joséphine. On revient à votre invité, le professeur Tumba Luaba. Vous êtes secrétaire exécutif honoraire de la CIRGL. Voilà, donc, vous avez suivi quand même les uns les autres. Mais ce que je retiens, moi, personnellement, par rapport à propos des uns et des autres, la question sur le leadership et l'accompagnement de la communauté internationale aujourd'hui. Omar l'avait également évoqué, l'impact que cela a, c'est-à-dire les conflits, généralement, sont créés par les multinationales. Professeur?
Bon, vous savez qu'il y a une bonne part de vérité. Dans la mesure où si vous prenez la géographie, la carte des conflits anciens, actuels, à l'Afrique, vous la superposez avec la géographie minière, la carte minière, vous constaterez que les zones de forte conflictualité correspondent à des zones où il y a la présence de ressources minières abondantes et les plus recherchées. C'est le cas de l'est de la RDC. Vous savez aussi au Libéria, Sierra Leone, avec le diamant. Mais tous ces réseaux qui entretiennent de conflits, qui entretiennent de groupes armés, qui font qu'il y ait des difficultés à consolider la paix, c'est parce qu'ils rencontrent aussi des faiblesses internes. Les faiblesses internes qui sont dues au fait que l'État est pratiquement inexistant dans certains endroits. Il y a le fait aussi qu'il y a tout ce groupe criminel transfrontalier qui coopère avec des autorités militaires et politiques des pays de la région. Mais il y a le fait aussi, on ne doit pas le nier, il faut pouvoir le reconnaître, que même au sein de nos forces armées, il existe des réseaux criminels qui eux aussi s'adonnent ou s'associent dans l'exploitation de ressources minières. Vous savez que nous avons eu une force armée du temps de Mobutu, mais dès que les généraux sont devenus des affairistes, ça n'était fini de cette armée. Et lorsqu'il y a des officiers affairistes, il faut les mettre de côté tout simplement. Sinon, on n'arrivera jamais à mettre fin au conflit parce qu'eux aussi, ils sont intéressés à ce que ce conflit demeure. Et je pense que il y a aussi les infrastructures. Lorsqu'il y a de bonnes infrastructures, les routes, l'électricité, tout ça, ça contribue aussi à la consolidation de la paix. Il faut occuper la jeunesse, il faut lui donner de l'emploi. Parce que là où il n'y a pas de l'emploi, le banditisme se développe, les activités illicites, illégales d'exploitation de ressources naturelles se développent. Donc il y a toutes ces préoccupations-là qui doivent être prises en compte dans la gestion de l'État. Alors, nous avons des ressources naturelles abondantes, mais nous avons aussi une grande richesse de ressources humaines qui sont utilisées un peu partout en Afrique.
Oui, professeur,
si nous mettons de la bonne gouvernance, nous allons pouvoir relever tous les défis.
Alors, professeur, si vous me permettez, on va quand même prendre une dernière série des auditeurs, le 2 ou 3. Comme ça, on revient à vous pour conclure cette émission. Alors, nous avons, oui, voilà, Maître Giscard, vous êtes à Matadi, vous avez raison. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Voilà, une minute pour votre intervention, et puis on va laisser la parole à José qui est à Goma. Maître Giscard, bonjour.
Bon, je voulais dire par rapport à la paix, c'est trop dur. Nous pouvons, au moins à la place, parler de la sécurité. Mais ce qui est bien vrai, si vous considérez la perestroïka qui est un vent qui a soufflé dans les années 90, ce vent-là a fait en sorte que on a pu constater la mauvaise gestion du pouvoir de l'État. Le dirigeant voulait à tout prix se faire maintenir au pouvoir. Et c'est ce qui a constitué la cause de l'insécurité et de l'instabilité dans la majorité des pays, surtout de l'Afrique centrale. Mais si vous considérez certains pays qui ont emboîté les pas et qui ont maintenant la stabilité, la sécurité, c'est que le Libéria, le Bénin, le Ghana et l'Afrique du Sud, pour ne citer que ces pays-là, ne sont pas des pays extraterrestres, c'est-à-dire leurs dirigeants, la population, ont placé d'abord l'intérêt général, l'intérêt national au premier plan, au détriment des intérêts égoïstes des individus. Et c'est pour cette raison que vous constaterez que dans nos pays, qui restent dans cette instabilité, vous constaterez qu'il n'y a pas la majorité des personnes, ceux qui dirigent, qui ont la bonne volonté de pouvoir faire.
Okay. Merci beaucoup, Maître Giscard. José, vous êtes avec nous. Bonjour. Oui, rapidement, José, vous avez 40
secondes. Merci beaucoup, J.R. Souvent, on nous passe souvent les micros car on tombe vers la fin, dommage. Mais de toute façon, on va s'exprimer pour pouvoir donner son ras-le-bol. Lorsque vous parlez de la paix, c'est une bonne chose. Mais je crois qu'en suivant le conseil qui est avec vous, il a évoqué des choses pour prendre des soins à gérer tout. Les deux élections ont été bien et bien organisées. Même si on a, en 2011, on a vu qu'il fallait un tour, bien sûr, mais cela a été bien organisé. Et nous tombons maintenant vers la fin. Et vous comprenez, quand on tombe vers la fin, je pense qu'on devait faire toutes sortes toutes sortes de manœuvres pour que l'élection ne puisse pas se tenir. Et c'est ce qui est la base de tout, parce qu'on ne peut pas avoir la paix. Nous sommes là pour avoir la culture de respecter la Constitution. Maintenant, si on pouvait respecter la Constitution comme le cas de 2011, le cas de 2006, je pense qu'on n'aurait même pas connu tout ce qu'on a connu il y a plus de pleurant. Maintenant, je pense que la paix, c'est la
au respect
des gens. Je ne suis pas allé là parce que je passe des temps, mais je crois que nous aimons notre pays, nous sommes obligés de respecter le texte, ce qui va nécessiter, n'est-ce pas, une paix durable.
Une paix durable.
C'est ce que je vais intervenir.
Merci beaucoup, José, et merci à tous d'avoir accepté de participer à cette émission. On va conclure avec vous, professeur Alphonse Daniel Kimba Louaba. En une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? C'est vrai que la RDC devait servir quand même des modèles de paix après avoir organisé l'élection de 2006-2011. Ce n'allait pas le cas. Alors, au cours de cette émission, quelques-uns ont souhaité que nous options pour le modèle, par exemple, sud-africain ou tant d'autres. En une phrase.
En ce qui concerne le modèle sud-africain, j'insiste beaucoup sur le fait que nous devons avoir des hommes de paix de part et d'autre du pouvoir comme de l'opposition. Il n'est pas tard, il n'est pas trop tard pour se parler. Et pour pouvoir trouver une solution durable, pour consolider tous les acquis. Il ne faudrait pas non plus laisser comme seule issue l'expression par la violence. Et on a beaucoup parlé de la confiance, mais il faut que cette confiance aussi se traduise par la parole, mais aussi par les actes. Les actes doivent traduire nos engagements. Les engagements sont contenus au plus haut niveau dans la Constitution, dans les lois et règles du pays. La justice, l'état de droit, respecter la dignité humaine, c'est vraiment un appel à la paix, que tous les hommes de paix puissent s'élever, et nous voudrions aussi entendre la voix des femmes. Parce que
loin
de pouvoir, les femmes
pour
se retrouver par le pays.
Professeur Alphonse Daniel, c'est ici que nous venons de conclure cette émission. On se retrouve demain dans un autre débat. Merci à Alain André Mongou qui a assuré la mise en œuvre de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie Fézabon a été au standard. Gilles Longuembo a eu le plaisir de vous les coordonner présentées sous la supervision de Martin Sebou-Jangouet. À très bientôt.